Chapitre 19, le matin du combat, les amis de Bussy, le combat. Un beau soleil se levait sur Paris. Aucun bourgeois ne savait la nouvelle, mais les gentilshommes royalistes et ceux du parti de Guise, ces derniers encore dans la stupeur, s'attendaient à l'événement et prenaient des mesures de prudence pour complimenter à temps le vainqueur. Ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre précédent, le roi ne dormit point de toute la nuit, il pria et pleura. Et comme après tout c'était un homme brave et expérimenté, surtout en matière de duel, il sortit vers 3 heures du matin avec Chicot pour aller rendre à ses amis le seul office qu'il fût en son pouvoir de leur rendre. Il alla visiter le terrain où devait avoir lieu le combat. Ce fut une scène bien remarquable et, disons-le, sans raillerie, bien peu remarquée. Le roi, vêtu d'habits de couleur sombre, enveloppé d'un large manteau, l'épée au côté, les cheveux et les yeux cachés sous les bords de son chapeau, suivit la rue Saint-Antoine jusqu'à 300 pas en avant de la Bastille. Mais arrivé là, voyant un grand rassemblement de monde un peu au-dessus de la rue Saint-Paul, il ne voulut point se hasarder dans cette foule, prit la rue Sainte-Catherine et gagna par derrière l'enclos des Tournelles. Cette foule, on devine ce qu'elle faisait là, elle comptait les morts de la nuit. Le roi l'évita et en conséquence ne sut rien de ce qui s'était passé. Chicot, qui avait assisté à la querelle, ou plutôt à l'accord qui avait eu lieu 8 jours auparavant, expliquait au roi, sur l'emplacement même où l'affaire allait se passer, la place que devaient occuper les combattants et les conditions du combat. À peine renseigné, Henri se mit à mesurer l'espace, regarda entre les arbres, calcula la réflexion du soleil et dit « Caylus se trouvera bien exposé, il aura le soleil à droite juste dans l'œil qu'il lui reste, tandis que Maugiron aura toute l'ombre. » Caylus aurait dû prendre la place de Maugiron, et Maugiron, qui a des yeux excellents, celle de Caylus, ah, voilà qui est bien mal réglé jusqu'à présent. Ah, quant à Schoenberg, il a le jarret faible, il a un arbre pour lui servir de retraite en cas de besoin, voilà qui me rassure pour lui. Mais Caylus, mon pauvre Caylus! Et il secoua tristement la tête. « Ah, tu me fais peine, mon roi, » dit Chicot. « Voyons, ne te tourmente pas ainsi, que diable, ils auront ce qu'ils auront. » Le roi leva les yeux au ciel et soupira. « Ah, voyez, mon Dieu, comme il blasphème, » murmura-t-il, « mais vous savez que c'est un fou. » Chicot leva les épaules. « Et d'Épernon, » reprit le roi, « je suis par ma foi injuste, je ne pensais pas à lui. D'Épernon, qui aura affaire à Bussy, comme il va être exposé. Hein, regarde la disposition du terrain, mon brave Chicot. À gauche, une barrière, à droite, un arbre, derrière, un fossé. D'Épernon, qui aura besoin de rompre à tout moment, car Bussy, c'est un tigre, un lion, un serpent. Bussy, c'est une épée vivante qui bondit, qui se développe, qui se replie. » « Bon, dit Chicot, je ne suis pas inquiet de d'Épernon, moi. »« Tu as tort, il se fera tuer. »« Lui, pas si bête. Il aura pris ses précautions, va. »« Comment l'entends-tu ? » ?»« J'entends qu'il ne se battra pas, mordieu. » »« Allons donc, ne l'as-tu pas entendu tout à l'heure ?»« Justement. » »« Eh bien, c'est pour cela que je te répète qu'il ne se battra point. » »« Homme incrédule et méprisant !» Je connais mon Gascon, Henri, mais si tu m'en crois, retirons-nous, cher sire, voilà le grand jour venu, retournons au Louvre. Peux-tu croire que je resterai au Louvre pendant le combat? Ventre de biche, tu y resteras, car si l'on te voyait ici, chacun dirait, au cas où tes amis seraient vainqueurs, que tu as forcé la victoire par quelque sortilège, et au cas où ils seraient vaincus, que tu leur as porté malheur. Et que me font les bruits et les interprétations, je les aimerai jusqu'au bout. Je veux bien que tu sois un esprit fort, Henri, je te fais même mon compliment d'aimer tes amis, c'est une vertu rare chez les princes, mais je ne veux pas que tu laisses Monsieur d'Anjou seul au Louvre. Crayon n'est-il pas là? Crayon n'est qu'un buffle, un rhinocéros, un sanglier, tout ce que tu voudras de brave et d'indomptable, tandis que ton frère, c'est la vipère, c'est le serpent à sonnette, c'est tout l'animal dont la puissance est moins dans sa force que dans son venin. Ah, tu as raison, j'aurais dû le faire jeter à la Bastille. Ah, je t'avais bien dit que tu avais tort de le voir. Oui, j'ai été vaincu par ton assurance, par ton aplomb, par ce service qu'il prétend m'avoir rendu. Raison de plus pour que tu t'en défies. Rentrons, mon fils, crois-moi. Henri suivit le conseil de Chicot et reprit avec lui le chemin du Louvre, après avoir jeté un dernier regard sur le futur champ du combat. Déjà tout le monde était sur pied dans le Louvre lorsque le roi et Chicot y entrèrent. Les jeunes gens s'y étaient éveillés, les premiers, et se faisaient habiller par leurs laquais. Le roi demanda à quelle chose ils s'occupaient. Schomberg faisait des pliés. Thiélus se bassinait les yeux avec de l'eau de vigne. Maugiron buvait un verre de vin d'Espagne. D'Épernon aiguisait son épée sur une pierre. On pouvait le voir d'ailleurs car il s'était, pour cette opération, fait apporter un grès à la porte de la chambre commune. « Et tu dis que cet homme n'est pas un paillard ?» fit Henri en le regardant avec amour. « Non, je dis que c'est un remouleur, voilà tout, » reprit Chicot. D'Épernon le vit et cria « Le roi !» Alors, malgré la résolution qu'il avait prise et que même dans cette circonstance il n'eut pas eu la force de maintenir, Henri entra dans leur chambre. Nous l'avons déjà dit, c'était un roi plein de majesté et qui avait une grande puissance sur lui-même. Son visage, tranquille et presque souriant, ne trahissait donc aucun sentiment de son cœur. « Bonjour, messieurs, dit-il, je vous trouve en excellente disposition, ce me semble. »« Dieu merci, oui, sire, » répliqua Thiélus. « Vous m'avez l'air sombre, Maugiron. Sire, je suis très superstitieux, comme le sait votre majesté, et comme j'ai fait de mauvais rêves, je me remets le cœur avec un doigt de vin d'Espagne. » « Ah, mon ami, dit le roi, il faut se rappeler, et je parle d'après Miron, qui est un grand docteur, il faut se rappeler, dis-je, que les rêves dépendent des impressions de la veille, mais n'influent jamais sur les actions du lendemain, sauf toutefois la volonté de Dieu. « Oui, sire, dit d'Épernon, aussi me voyez-vous aguerri. J'ai fort mal songé cette nuit, mais malgré le songe, le bras est bon et le coup d'œil perçant. » Et il se fendit contre le mur, auquel il fit une entaille avec son épée fraîchement émoulue. « Oui, dit Chicot, vous avez rêvé que vous aviez du sang à vos bottes. Ce rêve-là n'est pas mauvais. Il signifie que l'on sera un jour un triomphateur dans le genre d'Alexandre et de César. » « Ah, mes braves, dit Henri, vous savez que l'honneur de votre prince est en question, puisque c'est sa cause, en quelque sorte, que vous défendez. Mais l'honneur, entendez-vous bien, ne vous préoccupez donc pas de la sécurité de ma personne. Cette nuit, j'ai assis mon trône de manière que, d'ici à quelque temps, du moins, aucune secousse ne le puisse ébranler. Battez-vous donc pour l'honneur. » « Sire, soyez tranquille, nous perdrons peut-être la vie, dit Thiélus, mais en tout cas, l'honneur sera sauf. Ah, « Messieurs, continua le roi, je vous aime tendrement et je vous estime aussi. Laissez-moi donc vous donner un conseil, pas de fausse bravoure. Ce n'est pas en mourant que vous me donnerez raison, mais en tuant vos ennemis. « Oh, quant à moi, dit d'Épernon, je ne fais pas de quartier. Ah, « Moi, dit Thiélus, je ne réponds de rien, je ferai ce que je pourrai, voilà tout. » « Et moi, dit Maugiron, je réponds à sa majesté que si je meurs, je tuerai mon homme coup pour coup. »« Vous vous battez à l'épée seul ?»« À l'épée et à la dague, dit Schomberg. » Le roi tenait sa main sur sa poitrine. Peut-être cette main et ce cœur qui se touchaient se parlaient-ils l'un à l'autre de leurs craintes par leurs frémissements et leurs pulsations. Mais à l'extérieur, fier, l'œil sec, la lèvre hautaine, il était bien le roi. C'est-à-dire qu'il envoyait bien des soldats au combat et non des amis à la mort. « En vérité, mon roi, lui dit Chicot, tu es vraiment beau en ce moment. » Les gentilshommes étaient prêts. Il ne leur restait plus qu'à faire la révérence à leur maître. « Allez-vous à cheval, dit Henri. Non pas, sire, dit Thiélus, nous marcherons. C'est un salutaire exercice. Il dégage la tête et votre majesté l'a dit mille fois, c'est la tête plus que le bras qui dirige l'épée. » Ah, « Vous avez raison, mon fils, votre main !» Thiélus s'inclina et baisa la main du roi, les autres l'imitèrent. Et d'Épernon s'agenouilla en disant « Sire, bénissez mon épée !» Non pas des pernons, fit le roi. Rendez votre épée à votre page. Je vous réserve des épées meilleures que les vôtres. Importe les épées, Chicot. Non pas, dit le Gascon. Donne cette commission à ton capitaine des gardes, mon fils. Je ne suis qu'un fou, moi, qu'un païen même. Et les bénédictions du ciel pourraient se changer en sortilèges funestes, si le diable, mon ami, s'avisait de regarder à mes mains et s'apercevait de ce que je porte. Quelles sont donc ces épées, sire? Demanda Schomberg en jetant un coup d'œil sur la caisse qu'un officier venait d'apporter. Des épées d'Italie, mon fils, des épées forgées à Milan. Ah, les coquilles en sont bonnes, vous le voyez. Et comme, à l'exception de Schomberg, vous avez tous les mains délicates, le premier coup de fouet vous désarmerait si vos mains n'étaient pas si bien emboîtées. Ah, merci, merci, Majesté, dirent ensemble et d'une seule voix les quatre jeunes gens. Allez, il est temps, dit le roi, qui ne pouvait dominer plus longtemps son émotion. Sire, demanda Caylus, n'aurons-nous point pour nous encourager les regards de votre majesté? Non, ce ne serait pas convenable. Vous vous battrez sans qu'on le sache. Vous vous battrez sans mon autorisation. Ne donnons pas de solennité au combat, qu'on le croie surtout le résultat d'une querelle particulière. Et il les congédia d'un geste vraiment majestueux. Lorsqu'ils furent hors de sa présence, que les derniers valets eurent franchi le seuil du Louvre, et qu'on n'entendit plus le bruit ni des éperons ni des cuirasses que portaient les écuyers armés en guerre. Ah, je meurs, dit le roi en tombant sur une estrade. Et moi, dit Chicot, je veux voir ce duel. J'ai l'idée, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai, qu'il s'y passera quelque chose de curieux à l'endroit de d'Épernon. Tu me quittes, Chicot, dit le roi d'une voix lamentable. Oui, dit Chicot, car si quelqu'un d'entre eux faisait mal son devoir, je serais là pour le remplacer et pour soutenir l'honneur de mon roi. Ah, va donc, dit Henri. À peine le Gascon eut-il le congé qu'il partit, rapide comme l'éclair. Le roi, alors, rentra dans sa chambre, en fit fermer les volets, défendit à qui que ce fût dans le Louvre de pousser un cri ou de proférer une parole, et dit seulement à Crillon, qui savait tout ce qui allait se passer, « Si nous sommes vainqueurs, Crillon, tu me le diras. Si au contraire nous sommes vaincus, tu frapperas trois coups à ma porte. »« Oui, sire, répondit Crillon en secouant la tête. » Si les amis du roi avaient passé la nuit à dormir tranquillement, ceux du duc d'Anjou avaient pris la même précaution. À la suite d'un bon souper, auquel ils s'étaient réunis d'eux-mêmes, sans le conseil ni la personne de leur patron, qui ne prenait pas de ses favoris les mêmes inquiétudes que le roi prenait des siens, ils se couchèrent dans de bons lits chez Entraguet, dont la maison avait été choisie comme lieu de réunion, se trouvant la plus proche du champ de bataille. Un écuyer, celui de Ribérac, grand chasseur et habile armurier, avait passé toute la journée à nettoyer, fourbir et aiguiser les armes. Il fut en outre chargé de réveiller les jeunes gens au point du jour. C'était son habitude tous les matins de fêtes de chasse ou de duel. Entraguet, avant de souper, s'en était allé voir, rue Saint-Denis, une petite marchande qui l'idolâtrait et qu'on appelait dans tout le quartier que la belle imagière. Ribérac avait écrit à sa mère, Livarot avait fait son testament. À 3 heures sonnant, c'est-à-dire quand les amis du roi s'éveillaient à peine, ils étaient déjà tous sur pied, frais et dispos, et armés de bonne sorte. Ils avaient pris des caleçons et des bas rouges pour que leurs ennemis ne vissent pas leur sang et que ce sang ne les effrayât point eux-mêmes. Ils avaient des pourpoints de soie grise, afin, si l'on se battait tout habillé, qu'aucun pli ne gênât leurs mouvements. Enfin, ils étaient chaussés de souliers sans talons, et leurs pages portaient leurs épées pour que leurs bras et leurs épaules n'éprouvassent aucune fatigue. C'était un temps admirable pour l'amour, pour la bataille ou pour la promenade. Le soleil dorait le pignon des toits sur lesquels fondait l'étincelante rosée de la nuit. Une senteur âcre et délicieuse en même temps montait des jardins et se répandait par les rues. Le pavé était sec et l'air vif. Avant de sortir de la maison, les jeunes gens avaient fait demander au duc d'Anjou des nouvelles de Bussy. On leur avait fait répondre qu'il était sorti la veille à 10 heures du soir et qu'il n'était pas rentré depuis. Le messager s'informa s'il était sorti seul et armé. il apprit qu'il était sorti accompagné de Remy et que tous deux avaient leur épée. Au reste, on n'était point inquiet chez le comte, il faisait souvent des absences semblables. Et puis, on le savait si fort, si brave et si adroit, que ses absences, même prolongées, causaient peu d'inquiétude. Les trois amis se firent répéter tous ces détails. « Bon, dit Entraguet, n'avez-vous pas entendu dire, messieurs, que le roi m'avait commandé une grande chasse aux cerfs dans la forêt de Compiègne et que monsieur de Montsoreau avait à cet effet dû partir hier ?»« Oui, répondirent les jeunes gens. Alors je sais où il est, tandis que le grand veneur détourne le cerf, lui chasse la biche du grand veneur. Soyez tranquilles, messieurs, il est plus près du terrain que nous et il y sera avant nous. » Oui, dit Livaro, mais fatigué, harassé, n'ayant pas dormi. Entraguet haussa les épaules. Est-ce que Bussy se fatigue? Répliqua-t-il. Allons, en route, messieurs, nous le prendrons en passant. Tous se mirent en marche. C'était juste à ce moment qu'Henri distribuait les épées à leurs ennemis. Ils avaient donc 10 minutes à peu près d'avance sur eux. Comme Entraguet demeurait vers Saint-Eustache, ils prirent la rue des Lombards, la rue de la Verrerie et enfin la rue Saint-Antoine. Et toutes ces rues étaient désertes. Les paysans qui venaient de Montreuil, de Vincennes ou de Saint-Maur-les-Fossés, avec leur lait et leurs légumes et qui dormaient sur leurs chariots ou sur leurs mules, étaient seuls admis à voir cette fière escouade de 3 vaillants hommes suivis de leurs pages et de leurs écuyers. Plus de bravade, plus de cris, plus de menaces. Lorsqu'on se bat pour tuer ou pour être tué, qu'on sait que le duel de part et d'autre sera acharné, mortel, sans miséricorde, on réfléchit. Les plus étourdis des 3 étaient ce matin les plus rêveurs. En arrivant à la hauteur de la rue Sainte-Catherine, tous 3 portèrent avec un sourire qui indiquait qu'une même pensée les tenait en ce moment, leurs yeux vers la petite maison de Montsoreau. Ah, on verra bien de là, dit Entraguet, je suis sûr que la pauvre Diane viendra plus d'une fois à sa fenêtre. Ah, tiens, dit Rébérac, elle y est déjà venue, ce me semble. Pourquoi cela? Elle est ouverte. C'est vrai, mais pourquoi cette échelle dressée devant la fenêtre quand le logis a des portes? En effet, c'est bizarre, dit Entraguet. Tous 3 s'approchèrent de la maison avec le pressentiment qu'ils marchaient à quelque grave révélation. « Nous ne sommes pas les seuls à nous étonner, dit Livaro. Voyez ces paysans qui passent et qui se dressent dans leur voiture pour regarder. » Les jeunes gens arrivèrent sous le balcon. Un maraîcher y était déjà et semblait examiner la terre. Eh, seigneur de Montsoreau, cria Entraguet, venez-vous nous voir? En ce cas, dépêchez-vous, car nous tenons à arriver les premiers. » Ils attendirent, mais inutilement. Personne ne répond, dit Ribérac, mais pourquoi, diable, cette échelle? Eh, manant, dit Livaro au maraîcher, que fais-tu là? Est-ce que c'est toi qui as dressé cette échelle? Dieu m'en garde, messieurs, répondit-il. Et pourquoi cela? Demanda Entraguet. Regardez donc là-haut. Les 3 levèrent la tête. Du sang, s'écria Ribérac. Ma foi, oui, du sang, dit le villageois, et qui est bien noir même. La porte a été forcée, dit en même temps le page d'Entraguet. Entraguet jeta un coup d'œil de la porte à la fenêtre et, saisissant l'échelle, il fut sur le balcon en une seconde. Il plongea son regard dans la chambre. Qu'y a-t-il donc? Demandèrent les autres qui le virent chanceler et pâlir. Un cri terrible fut sa seule réponse. Livaro était monté derrière lui. Des cadavres, la mort partout, s'écria le jeune homme. Et tous deux entrèrent dans la chambre. Ribérac resta en bas, de peur de surprise. Pendant ce temps, le maraîcher arrêtait par ses exclamations tous les passants. La chambre portait partout les traces de l'horrible lutte de la nuit. Les taches, ou plutôt une rivière de sang, s'étaient étendues sur le carreau. Les tentures étaient hachées de coups d'épée et de balles de pistolet. Les meubles gisaient, brisés et rouges, dans les débris de chair et de vêtements. « Oh, Remy, oh, le pauvre Remy !» dit tout à coup Entraguet. « Mort ?» demanda Livaro. « Déjà froid. »« Mais il faut donc, » s'écria Livaro, « qu'un régiment de reîtres ait passé par cette chambre. » En ce moment, Livaro vit la porte du corridor ouverte. Des traces de sang indiquaient que de ce côté aussi avait eu lieu la lutte. Il suivit les terribles vestiges et vint jusqu'à l'escalier. La cour était vide et solitaire. Pendant ce temps, Entraguet, au lieu de le suivre, prenait le chemin de la chambre voisine. Il y avait du sang partout. Le sang conduisait à la fenêtre. Il se pencha sur son appui et plongea son œil effrayé sur le petit jardin. Le treillage de fer retenait encore le cadavre livide et raide du malheureux Bussy. À cette vue, ce ne fut pas un cri, mais un rugissement qui s'échappa de la poitrine d'Entraguet. Divarot accourut. « Regarde, dit Entraguet, Bussy, mort !»« Bussy, assassiné, précipité par une fenêtre. Entre, Ribérac, entre !» Pendant ce temps, Livarot s'élançait dans la cour et rencontrait au bas de l'escalier Ribérac qui l'emmenait avec lui. Une petite porte qui communiquait de la cour au petit jardin leur donna passage. « Ah, c'est bien lui !» cria Livarot. « Il a le poing haché !» dit Ribérac. « Il a deux balles dans la poitrine. Il est criblé de coups de dague. « Ah, pauvre Bussy !» hurlait Entraguet. « Vengeance, vengeance !» En se retournant, Livarot heurta un second cadavre. « Monsoreau » cria-t-il. « Quoi, Monsoreau aussi ?»« Oui, Monsoreau percé comme un crible et qui a eu la tête brisée sur le pavé. »« Ah ça, mais on a donc assassiné tous nos amis cette nuit. » « Et sa femme !» cria Entraguet. « Diane, Madame Diane !» Personne ne répondit, excepté la populace qui commençait à fourmiller autour de la maison. C'est en ce moment que le roi et Chicot arrivaient à la hauteur de la rue Sainte-Catherine et se détournaient pour éviter le rassemblement. « Bussy, pauvre Bussy !» s'écriait Ribérac désespéré. « Oui, dit Entraguet, on a voulu se défaire du plus terrible de nous tous. » « C'est une lâcheté, c'est une infamie !» crièrent les deux autres jeunes gens. « Allons nous plaindre au duc !» cria l'un d'eux. « Non pas, dit Entraguet, ne chargeons personne du soin de notre vengeance. Nous serions mal vengés, amis. Attends-moi. » En une seconde, il descendit et rejoignit Livarot et Ribérac. « Mes amis, dit-il, regardez cette noble figure du plus brave des hommes. Voyez les gouttes encore vermeilles de son sang. Celui-là nous donne l'exemple, celui-là ne chargeait personne du soin de le venger. Bussy, Bussy, nous ferons comme toi, et sois tranquille, nous nous vengerons. » En disant ces mots, il se découvrit, posa ses lèvres sur les lèvres de Bussy, et, tirant son épée, il la trempa dans son sang. « Bussy, dit-il, je jure sur ton cadavre que ce sang sera lavé dans le sang de tes ennemis. » « Bussy, dirent les autres, nous jurons de tuer ou de mourir. »« Messieurs, dit Entraguet, remettant son épée au fourreau, pas de merci, pas de miséricorde, n'est-ce pas ?» Les deux jeunes gens étendirent la main sur le cadavre. « Pas de merci, pas de miséricorde, répétèrent-ils. « Mais, dit Livarot, nous ne serons plus que trois contre quatre. » « Oui, mais nous n'aurons assassiné personne, nous, dit Entraguet, et Dieu fera fort ceux qui sont innocents. » « Adieu, Bussy !»« Adieu, Bussy !» répétèrent les deux autres compagnons, et ils sortirent, l'effroi dans l'âme et la pâleur au front, de cette maison maudite. Ils y avaient trouvé, avec l'image de la mort, ce désespoir profond qui centuple les forces. Ils y avaient recueilli cette indignation généreuse qui rend l'homme supérieur à son essence mortelle. Ils percèrent avec peine la foule, tant en un quart d'heure la foule était devenue considérable. En arrivant sur le terrain, ils trouvèrent leurs ennemis qui les attendaient, les uns sur des pierres, les autres pittoresquement campés sur les barrières de bois. Ils firent les derniers pas en courant, honteux d'arriver les derniers. Les quatre mignons avaient avec eux quatre écuyers. Leurs quatre épées, posées par terre, semblaient attendre et se reposer comme eux. « Messieurs, dit Caylus, en se levant et en saluant avec une espèce de morgue hautaine, nous avons eu l'honneur de vous attendre. »« Excusez-nous, messieurs, dit Entraguet, mais nous fussions arrivés avant sans le retard d'un de nos compagnons. »« Monsieur de Bussy, fit d'Épernon, effectivement, je ne le vois pas. Il paraît qu'il se fait tirer l'oreille ce matin. »« Ah, nous avons bien attendu jusqu'à présent, dit Schomberg, nous attendrons bien encore. » « Monsieur de Bussy ne viendra pas, » répondit Entraguet. Une stupeur profonde se peignit sur tous les visages. Celui de d'Épernon seul exprima un autre mouvement. « Il ne viendra pas, » dit-il. « Ah, le brave des braves a donc peur ?»« Ce ne peut être pour cela, » reprit Caylus. « Vous avez raison, monsieur, » dit Livarot. « Et pourquoi ne viendra-t-il pas ?» demanda Maugiron. parce qu'il est mort, répliqua Entraguet. Mort, s'écria l'Hermignon. D'Épernon ne dit rien, il pâlit même légèrement. Et mort assassiné, reprit Entraguet. Ne le savez-vous pas, messieurs? Non, dit Caylus, et pourquoi le saurions-nous? D'ailleurs, est-ce sûr? Demanda d'Épernon. Entraguet tira sa rapière. Si sûr, dit-il, que voilà de son sang sur mon épée. Assassiné! S'écrièrent les trois amis du roi, monsieur de Bussy. Assassiné! D'Épernon continuait de secouer la tête d'un air de doute. Oh, ce sang crie vengeance, dit Ribérac. Ne l'entendez-vous donc pas, messieurs? Ah, ça, reprit Chaumbert, qu'on dirait que votre douleur a un sens. Pardieu, fit Entraguet. Qu'est-ce à dire? S'écria Caylus. Cherche à qui le crime profite, dit le légiste, murmura Entraguet. Ah ça, messieurs, vous expliquerez-nous haut et clair, dit Maugiron d'une voix tonnante. Nous venons justement pour cela, messieurs, dit Ribérac, et nous avons plus de sujets qu'il n'en faut pour nous égorger 100 fois. Alors vite, l'épée à la main, dit d'Épernon en tirant son arme du fourreau, et faisons vite. Oh, oh, vous êtes bien pressé, monsieur le Gascon, dit Livaro, vous ne chantiez pas si haut quand nous étions 4 contre 4. Ah, est-ce notre faute si vous n'êtes plus que 3, répondit d'Épernon. Oui, c'est votre faute, s'écria Entraguet. Il est mort parce qu'on l'aimait mieux couché dans la tombe que debout sur le terrain. Il est mort le poing coupé pour que son poing ne pût plus soutenir son épée. Il est mort parce qu'il fallait à tout prix éteindre ses yeux dont l'éclair vous eut ébloui tous 4. Comprenez-vous? Suis-je clair? Chaumbert, Maugiron et d'Épernon hurlaient de rage. « Assez, assez, messieurs, dit Caylus. Retirez-vous, monsieur d'Épernon. Nous nous battrons 3 contre 3. Ces messieurs verront alors si, malgré notre droit, nous sommes gens à profiter d'un malheur que nous déplorons comme eux. Venez, messieurs, venez, » ajouta le jeune homme en jetant son chapeau en arrière et en levant la main gauche tandis que, de la droite, il faisait siffler son épée. « Venez, et en nous voyant combattre à ciel ouvert et sous le regard de Dieu, vous pourrez juger si nous sommes des assassins. » « Allons, de l'espace, de l'espace !»« Ah, je vous haïssais, dit Chaumbert, maintenant je vous exècre. »« Et moi, dit Entraguet, il y a 1 heure que je vous eusse tué, mais maintenant je vous égorgerai. En garde, messieurs, en garde !»« Avec nos pourpoints ou sans pourpoints ?» demanda Chaumbert. « Sans pourpoints, sans chemise, dit Entraguet, la poitrine à nu, le cœur à découvert. » Les jeunes gens jetèrent leurs pourpoints et arrachèrent leurs chemises. Tiens, dit Caylus, en se dévêtant, j'ai perdu ma dague. Elle tenait mal au fourreau et sera tombée en route. Ou vous l'aurez laissée chez monsieur de Montsoreau, place de la Bastille, dit Entraguet, dans quelque fourreau dont vous n'aurez osé la retirer. Caylus poussa un hurlement de rage et tomba en garde. Mais il n'y a pas de dague, monsieur Entraguet, il n'y a pas de dague, cria Chicot, qui arrivait en ce moment sur le champ de bataille. « Tant pis pour lui, dit Entraguet, ce n'est point ma faute. » Et tirant sa dague de la main gauche, il tomba en garde de son côté. Le terrain sur lequel allait avoir lieu cette terrible rencontre était ombragé d'arbres, ainsi que nous l'avons vu, et situé à l'écart. Il n'était fréquenté d'ordinaire que par les enfants qui venaient y jouer le jour, ou les ivrognes et les voleurs qui venaient y dormir la nuit. Les barrières, dressées par les marchands de chevaux, écartait naturellement la foule qui, semblable au flot d'une rivière, suit toujours en courant et ne s'arrête ou ne revient qu'attirée par quelques remous. Les passants longeaient cet espace et ne s'y arrêtaient point. D'ailleurs, il était de trop bonne heure et l'empressement général se portait vers la maison sanglante de Montsoreau. Chicot, le cœur palpitant, bien qu'il ne fût pas fort tendre de sa nature, s'assit en avant des laquais et des pages sur une balustrade de bois. Il n'aimait pas les Angevins, il détestait les Mignons, mais les uns et les autres étaient de braves jeunes gens, et sous leur chair courait un sang généreux que bientôt on allait voir jaillir au grand jour. D'Épernon voulut risquer une dernière fois la bravade. Hein, « Quoi, on a donc bien peur de moi » s'écria-t-il. « Taisez-vous, bavard !» lui dit Entraguet. « J'ai mon droit !» répliqua d'Épernon. « La partie fut liée à 8. »« Allons, au large !» dit Ribérac impatienté en lui barrant le passage. Il s'en revint avec des airs de tête superbes et rengaina son épée. Venez, dit Chicot, venez, fleur des braves, sans quoi vous allez perdre encore une fois une paire de souliers, comme hier. Que dit ce maître fou? Je dis que tout à l'heure il y aura du sang par terre, et vous marcheriez dedans comme vous fîtes cette nuit. D'Épernon devint blafard, toute sa jactance tombait sous ce terrible reproche. Il s'assit à 10 pas de Chicot, qu'il ne regardait plus sans terreur. Ribérac et Schomberg s'approchèrent après le salut d'usage. Quélus et Entraguet, qui depuis un instant déjà étaient tombés en garde, engagèrent le fer en faisant un pas en avant. Maugiron et Livaro, appuyés chacun sur une barrière, se guettaient en faisant des feintes sur place pour engager l'épée dans leur garde favorite. Le combat commença comme 5 heures sonnaient à Saint-Paul. La fureur était peinte sur les traits des combattants, mais leurs lèvres serrées, leur pâleur menaçante, l'involontaire tremblement du poignet indiquaient que cette fureur était maintenue par eux à force de prudence et que, pareil à un cheval fougueux, elle ne s'échapperait point sans de grands ravages. Il y eut durant quelques minutes, ce qui est un espace de temps énorme, un frottement d'épée qui n'était pas encore un cliquetis. Pas un coup ne fut porté. Ribérac, fatigué ou plutôt satisfait d'avoir tâté son adversaire, baissa la main et attendit un moment. Schomberg fit 2 pas rapides et lui porta un coup qui fut le premier éclair sorti du nuage. Ribérac fut frappé. Sa peau devint livide et un jet de sang sortit de son épaule. Il rompit pour se rendre compte à lui-même de sa blessure. Schomberg voulut renouveler le coup, mais Ribérac releva son épée par une parade de prime et lui porta un coup qu'il atteignit au côté. Chacun avait sa blessure. « Maintenant, reposons-nous quelques secondes, si vous voulez, » dit Ribérac. Cependant, Quélus et Entraguet s'échauffaient de leur côté, mais Quélus, n'ayant pas de dague, avait un grand désavantage. Il était obligé de parer avec son bras gauche, et comme son bras était nu, chaque parade lui coûtait une blessure. Sans être atteint grièvement, au bout de quelques secondes, il avait la main complètement ensanglantée. Entraguet, au contraire, comprenant tout son avantage et non moins habile que Quélus, parait avec une mesure extrême. 3 coups de riposte portèrent, et sans être touché grièvement, le sang s'échappa de la poitrine de Quélus par 3 blessures. Mais à chaque coup, Quélus répéta « Ce n'est rien !» Livaro et Maugiron en étaient toujours à la prudence. Quant à Ribérac, furieux de douleur et sentant qu'il commençait à perdre ses forces avec son sang, il fondit sur Schomberg. Schomberg ne recula point et se contenta de tendre son épée. Les 2 jeunes gens firent coup fourré. Ribérac eut la poitrine traversée et Schomberg fut blessé au cou. Ribérac, blessé mortellement, porta la main gauche à sa plaie en se découvrant. Schomberg en profita pour porter à Ribérac un 2nd coup qui lui traversa les chairs. Mais Ribérac, de sa main droite, saisit la main de son adversaire et de la gauche lui enfonça dans la poitrine sa dague jusqu'à la coquille. La lame aiguë traversa le cœur. Schomberg poussa un cri sourd et tomba sur le dos, enchaînant avec lui Ribérac, toujours traversé par l'épée. Livaro, voyant tomber son ami, fit un pas de retraite et courut à lui, poursuivi par Maugiron. Il gagna plusieurs pas dans la course, et aidant Ribérac dans les efforts qu'il faisait pour se débarrasser de l'épée de Schomberg, il lui arracha cette épée de la poitrine. Mais alors, rejoint par Maugiron, force lui fut de se défendre avec le désavantage d'un terrain glissant, d'une garde mauvaise et du soleil dans les yeux. Au bout d'une seconde, un coup d'estoc ouvrit la tête de Livaro, qui laissa échapper son épée et tomba sur les genoux. Quélus était vivement serré par Entraguet. Maugiron se hâta de percer Livaro d'un autre coup de pointe. Livaro tomba tout à fait. D'Épernon poussa un grand cri. Quélus et Maugiron restaient contre le seul Entraguet. Quélus était tout sanglant, mais de blessures légères. Maugiron était à peu près sauf. Entraguet comprit le danger. Il n'avait pas reçu la moindre égratignure, mais il commençait à se sentir fatigué. Ce n'était cependant pas le moment de demander trêve à un homme blessé et à un autre tout chaud de carnage. D'un coup de fouet, il écarta violemment l'épée de Quélus et, profitant de l'écartement du fer, il sauta légèrement par-dessus une barrière. Quélus revint par un coup de taille, mais qui n'entama que le bois. À ce moment, Maugiron attaqua Entraguet de flanc. Entraguet se retourna. Quélus profita du mouvement pour passer sous la barrière. « Vive le roi !» cria d'Épernon. « Hardi, mes lions, hardi !»« Monsieur, du silence, s'il vous plaît, » dit Entraguet. « N'insultez pas un homme qui se battra jusqu'au dernier souffle. » « Et qui n'est pas encore mort !» s'écria Livaro. Et au moment où nul ne pensait plus à lui, hideux de la fange sanglante qui couvrait son corps, il se releva sur ses genoux et plongea sa dague entre les épaules de Maugiron, qui tomba comme une masse en soupirant. « Jésus, mon Dieu, je suis mort !» Livaro retomba évanoui, l'action et la colère avaient épuisé le reste de ses forces. « Monsieur de Quélus, » dit Entraguet, abaissant son épée, « vous êtes un brave homme. Rendez-vous, je vous offre la vie. »« Pourquoi me rendre ?» dit Quélus. « Suis-je à terre ?»« Non, mais vous êtes criblé de coups, et moi, je suis sain et sauve. »« Vive le roi !» cria Quélus. « J'ai encore mon épée, monsieur. » Et il se fendit sur Entraguet, qui par le coup si rapide qu'il eût été. « Ah non, monsieur, vous ne l'avez plus !» dit Entraguet, saisissant à pleine main la lame près de la garde. Et il tordit le bras de Quélus, qui lâcha l'épée. Seulement Entraguet se coupa légèrement un doigt de la main gauche. « Oh !» hurla Quélus, « une épée, une épée !» Et se lançant sur Entraguet d'un bond de tigre, il l'enveloppa de ses deux bras. Entraguet se laissa prendre au corps, et passant son épée dans sa main gauche et sa dague dans sa main droite, il se mit à frapper sur Quélus sans relâche et partout, s'éclaboussant à chaque coup du sang de son ennemi, à qui rien ne pouvait faire lâcher prise, et qui criait à chaque blessure « Vive le roi !» Il réussit même à retenir la main qui le frappait, et à garrotter, comme eût fait un serpent, son ennemi intact entre ses jambes et ses bras. Entraguet sentit que la respiration allait lui manquer. En effet, il chancela et tomba. Mais en tombant, comme si tout devait le favoriser ce jour-là, il étouffa, pour ainsi dire, le malheureux Quélus. « Vive le roi !» murmura ce dernier à l'agonie. Entraguet parvint à dégager sa poitrine de l'étreinte. Il se raidit sur un bras et, le frappant d'un dernier coup qui lui traversa la poitrine, « Tiens !» lui dit-il. « Es-tu content ?»« Vive le roi !» articula Quélus, les yeux à demi fermés. Ce fut tout. Le silence et la terreur de la mort régnaient sur le champ de bataille. Entraguet se releva, tout sanglant, mais du sang de son ennemi. Il n'avait, comme nous l'avons dit, qu'une égratignure à la main. D'Épernon, épouvanté, fit un signe de croix et prit la fuite, comme s'il eût été poursuivi par un spectre. Entraguet jeta sur ses compagnons et ses ennemis, morts et mourants, le même regard qu'Horace dut jeter sur le champ de bataille qui décidait des destins de Rome. Chico accourut et releva Quélus, qui rendait son sang par 19 blessures. Le mouvement le ranima, il rouvrit les yeux. « Entraguet, sur l'honneur, dit-il, je suis innocent de la mort de Bussy. »« Oh, je vous crois, monsieur, » fit Entraguet attendri, « je vous crois. » « Fuyez, » murmura Quélus, « fuyez, le roi ne vous pardonnerait pas. »« Et moi, monsieur, je ne vous abandonnerai pas ainsi, » dit Entraguet, « dû l'échafaud me prendre. »« Sauvez-vous, jeune homme, » dit Chico, « et ne tentez pas Dieu. Vous vous sauvez par un miracle, n'en demandez pas deux le même jour. » Entraguet s'approcha de Ribérac qui respirait encore. « Eh bien, » demanda celui-ci, « Nous sommes vainqueurs, » répondit Entraguet à voix basse, pour ne pas offenser Quélus. « Merci, » dit Ribérac, « va-t'en. » Et il retomba, évanoui. Entraguet ramassa sa propre épée, qu'il avait laissée tomber dans la lutte, puis celle de Quélus, de Schomberg et de Maugiron. « Achevez-moi, monsieur, » dit Quélus, « ou laissez-moi mon épée. » « La voici, monsieur le comte, » dit Entraguet, en la lui offrant avec un salut respectueux. Une larme brilla aux yeux du blessé. « Nous eussions pu être amis, » murmura-t-il. Entraguet lui tendit la main. « Bien, fit Chico, c'est on ne peut plus chevaleresque, mais sauve-toi, Entraguet, tu es digne de vivre. »« Mes compagnons, » demanda le jeune homme, « j'en aurai soin, comme des amis du roi. » Entraguet s'enveloppa du manteau que lui tendait son écuyer, afin qu'on ne vît pas le sang dont il était couvert, et laissant les morts et les blessés au milieu des pages et des laquais, il disparut par la porte Saint-Antoine.